Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Il connaît tous les dessous de la politique.
L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Cube Radio.
Bon vendredi quand même. Aujourd'hui, à la haut sur la colline, en quarantaine, Martin Ouellette du Parti québécois salue la gestion de crise du gouvernement Legault, mais lui demande d'injecter immédiatement des liquidités dans les PME. Il aimerait bien aussi qu'Hydro-Québec donne un coup de main aux PME. Ensuite, il y a Thomas Mulcair. Ben oui, c'est vendredi, donc c'est notre dialogue des barbus. Thomas Mulcair estime, lui, que le fédéral a bien fait d'annoncer ce matin qu'il subventionnerait les salaires des employés de PME. Et pourtant, il raille l'idée de l'administration Trump d'envoyer l'armée à la frontière canadienne. Mais d'abord, le compteur est avec nous, au bout du fil, en quarantaine. Gigi Lamoroso,
croqueur d'amour, l'œil de velours. Bonjour Jean-François Gibault.
Bonjour Antoine.
Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI qui cherche en maudit tout seul dans son appartement en télétravail. Puis là, aujourd'hui, Jean-François, tu trouves que Ottawa, ils sont un peu amateurs dans leurs annonces.
Bien, ils sont amateurs dans leurs annonces, Antoine. Et le problème, c'est que ça crée énormément de confusion. C'est en milliers les courriels qu'on reçoit, nous, de lecteurs, qui ne s'y retrouvent simplement plus. Et ils ont raison. Je veux dire, un ministre dit une chose, l'autre ministre dit autre chose. Une journée, on dit, par exemple, que le chèque de 2 000 $ va être imposable. Le lendemain, il n'est plus imposable. On ne peut pas tout le temps improviser comme ça, parce qu'on perd tout le monde. Même les journalistes ont de la misère à suivre en ce moment. Et même le gouvernement du Québec a de la misère à suivre.
Alors, imaginons les citoyens, Jean-François.
Ben, les citoyens ne peuvent pas s'y retrouver, puis je les comprends. Je veux dire, les gens, quand ils nous écrivent, et d'une part, ils se font dire qu'on ne va pas vérifier leur admissibilité avant d'envoyer l'argent pour que ça aille vite, mais d'autre part, on adopte des mesures exceptionnelles justement pour obliger ces gens-là à fournir des documents sur demande. Et si les gens ne sont pas capables de prouver leur admissibilité, on se donne même les moyens de couper leurs futures prestations. Tu sais, quand vous recevez, par exemple, des remboursements de taxes, des allocations pour vos enfants, le projet de loi adopté par Ottawa leur permet d'utiliser ces montants-là pour se repayer si jamais, dans le fond, vous n'êtes pas capable tantôt de faire la démonstration que vous allez avoir droit au fameux 2 000 $. Et on nous dit d'abord 2 000 $ pour nous dire ensuite, « Ouais, mais c'est pas vraiment 2 000 $ parce qu'on va faire une retenue de 200 $, alors ce sera 1 800 $. » Là, les gens disent, « Mais pourquoi annoncer 2 000 $ si c'est 1 800 $ le vrai chèque? » Alors là, en soirée, on nous dit, « Ben finalement, on va vous donner le 2 000 $ au complet. » Et là, le matin, il avait changé. Pourquoi? Parce que les chômeurs, ils disaient, « Mais nous, en assurance-emploi, c'est imposable notre prestation. Alors, ça devient la loterie Trudeau, parce que si je perds mon emploi, il y a 2 semaines, je paye de l'impôt. Si je perds mon emploi après le 15 mars, je ne paierai pas d'impôt. » Alors, tout ça est retombé à zéro. On dit, bon, finalement, oui, ça sera imposable.
OK. Là, donc, la dernière décision, là, Jean-François, là, c'est que ça va être imposable.
Ça va être imposable.
Ça, c'est la prestation canadienne d'urgence. Là.
Oui, le fameux 2 000 $ dont tout le monde parle. Autre problème, Antoine, 2 000 $ par mois, c'est plus que le salaire de beaucoup de personnes qui travaillent dans les services essentiels. Les commis d'épicerie actuellement, là, les épiceries doivent être ouvertes. La plupart des gens ne gagnent pas 2 000 $ par mois dans les épiceries. Alors, on était inondés de personnes qui nous disaient, mais pourquoi j'irais travailler à prendre des risques de me faire contaminer pour moins d'argent que de rester chez nous avec le chèque à Trudeau? Alors, M. Legault, un matin, pas le choix, en catastrophe, est obligé d'annoncer que le gouvernement du Québec va payer l'écart, dans le fond, entre le salaire des gens du service essentiel qui gagnent moins de 2 000 $ et le chèque à M. Trudeau de 2 000 $ pour s'assurer qu'on ne manque
donc,
pas de gardiennes, s'assurer qu'on ne manque pas de préposés aux bénéficiaires dans les foyers privés.
Il va subventionner le gardiennage, les commis à l'épicerie, puis les préposés aux bénéficiaires?
Antoine, il va subventionner les gaffes à Trudeau. C'est de ça qu'on parle actuellement. Ah oui. Il est obligé d'agir pour éviter que les effets pervers des mesures improvisées à Ottawa prennent le dessus sur les effets bénéfiques. Et ça, c'est pas normal. Pourquoi le chèque, de toute manière, on peut pas le demander avant le 6 avril? C'était quoi l'urgence de donner l'information?
Ben oui, pourquoi ils prennent pas le temps?
Ben, c'est la question qu'on se pose. C'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi ne pas se parler? Puis pourquoi ne pas établir les besoins précisément de chaque province, négocier ça avec eux, attacher les différents systèmes? Antoine, en date d'aujourd'hui, là, on ne sait toujours pas si les gens qui reçoivent le chèque d'urgence de Québec, le programme d'aide temporaire aux travailleurs, on ne sait toujours pas s'ils vont pouvoir avoir à la fois le chèque de Québec et le chèque d'Ottawa. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à se parler pour savoir si c'était les deux, un des deux, le plus gros des deux, le plus petit des deux. J'ai passé la journée à vouloir avoir cette réponse-là. Ils ne le savent pas. Donc, bon. On est dans ce monde-là où on n'arrive pas à s'y retrouver. Puis, bon. Monsieur, madame, tout le monde, bien évidemment, ils sont encore moins capables.
Alors, je vais me faire l'avocat du diable, là. C'est des gens qui, actuellement, sont pris avec une obligation d'urgence. Il faut peut-être les comprendre, là, créer des programmes comme ça à partir de rien, ex nihilo en quelques heures, c'est ça que ça donne, non? Mais est-ce qu'ils peuvent attendre? Parce que les gens ont besoin d'argent, là, c'est arrivé tellement subitement, ce coup d'arrêt-là dans l'économie.
Ben, ils peuvent pas attendre l'émission des chèques. Mais comme je te disais, Antoine, les chèques, ils nous l'ont dit, on n'aura pas ça avant le 10 avril. Alors, c'était quoi l'urgence de l'annoncer deux jours avant, deux jours après? Je pense qu'on n'aurait pas pu attendre trois mois. On aurait certainement pu attendre trois jours et que le message soit clair, que les deux gouvernements soient coordonnés, que je sois capable de savoir est-ce que je vais avoir un chèque, deux chèques, imposé, pas imposé, si je pars volontairement, est-ce que je vais pouvoir l'obtenir ou pas, et ainsi de suite. Parce que là, dans le fond, c'est la pagaille. Et oui, il faut aller vite, mais on est toujours mieux d'aller un peu moins vite, mais de le faire comme faut, que de courir sans savoir où on va.
Parfait. Maintenant, le Québec est plus touché que le reste du Canada. Ça semble de plus en plus évident. Est-ce que les explications de M. Legault, Arruda et Mme McCann t'ont convaincu aujourd'hui, là, l'idée de la semaine de relâche?
Ben, c'est-à-dire que c'est l'explication qu'ils ont donnée. Ça fait deux jours que, confrontés aux statistiques, on cherche des explications. C'est-à-dire, bon, avant hier, on disait qu'il y a plus de tests positifs au Québec qu'ailleurs. Alors là, on nous disait oui, mais peut-être qu'au Québec, on fait un dépistage qui est plus ciblé. Hein? On ne faisait pas passer des tests à tout le monde, on faisait passer des tests aux voyageurs qui avaient des symptômes seulement. On a dit, ben, très bien. Mais là, le lendemain, là, c'est il y a plus d'hospitalisation au Québec. Alors, comment ça se fait qu'il y a plus d'hospitalisation au Québec? Et là, on dit, ben, peut-être qu'on hospitalise plus facilement, peut-être qu'on a plus de personnes âgées. Mais finalement, aujourd'hui, bon, on reconnaît que oui, c'est pas simplement une question de la manière dont on procède. Il y a peut-être une plus grande prévalence du virus au Québec. Et on nous dit que la semaine de relâche, donc, qui n'est pas au même moment qu'ailleurs, serait peut-être l'explication. Donc, on aurait voyagé essentiellement au pire moment. Et des restrictions aux voyageurs ont été imposées la semaine suivante.
Bon. Alors, est-ce que ça te convainc?
Ben, je veux dire, je pense qu'ils ne peuvent pas tout contrôler. Encore une fois, au moins à Québec, on a des messages clairs. On a l'impression que le plan est mené de meilleures mains, qu'il y a peut-être moins de mesures, mais qui sont mieux maîtrisées, plus simples. Tandis qu'à Ottawa, ben, c'est un peu quelqu'un qui tire à la mitraillette avec un bandeau sur les yeux. Je voyais encore aujourd'hui M. Trudeau, il dit, après avoir promis un chèque pour aider les entreprises à couper le nombre d'heures sans congédier leurs employés, ben, je change d'idée, puis je dis finalement, on va faire comme en Europe et on va payer 75% du salaire des employés des PME. Mais là, maintenant, première question, M. Trudeau, c'est quoi votre définition d'une PME? Et là, on a le chevreuil empaillé qui n'a aucune idée de ce qu'il est en train d'annoncer. Et alors, ça continue. Mais maintenant, est-ce que le diable est toujours dans les détails? Est-ce qu'on aura deux entreprises qui essentiellement sont des concurrents et qui vendent le même produit et une aura une subvention de 75%, l'autre aura une subvention de 10%? Ça ne va pas tenir encore une
fois. Oui.
Et on va être obligé de marcher sur la peinture, de détricoter ce qu'on vient d'annoncer. Mais c'est très difficile de comprendre qu'on envoie un premier ministre, là, parce qu'on ne parle pas du maire d'une paroisse, là. On envoie un premier ministre annoncer des programmes qui chiffrent en milliards et il n'a pas la moindre idée des paramètres, n'a pas la moindre idée de qui ça vise. Et lui, dans le fond, il est en avant, puis il parle et ne semble pas du tout être en contrôle de ses dossiers. Moi, je trouve que ce n'est pas normal.
C'est comme s'il avait appliqué le modèle danois dont on parlait l'autre jour, là, c'est-à-dire de subventionner les emplois, au fond, puis de faire en sorte d'envoyer de l'argent aux entreprises. Puis bon, les entreprises gardent les employés à leur service, mais juste pour les PME, là, ça rend les affaires compliquées, là. Parce qu'au Danemark, c'est toutes les entreprises qui sont dans ce cas-là.
Ben, imaginez-vous, là, quelle est la définition d'une PME? Bon, il y a des gens qui vont nous dire que c'est des employés, des entreprises qui comptent moins de 200 employés. Il y a des gens qui vont dire que c'est les entreprises dans lesquelles l'investissement en capital est de moins de 10 millions. Il y a il y a plusieurs définitions. Mais maintenant, peu importe la définition qu'on prend, je peux te garantir, Antoine, que si on a une entreprise qui a 203 employés, et que ça prend 200 pour avoir une subvention de 75%, ça ne sera pas long qu'il va avoir 199 employés, là.
Mm-hmm.
Et c'est toute la difficulté.
C'est clair,
et
oui.
Comment faire la différence entre un employé qu'on aurait congédié sans la mesure d'un employé qui, dans le fond, va être subventionné, mais qui n'allait absolument pas perdre son travail? Ça va être difficile tantôt de s'y démêler, puis je pense qu'il va y avoir des gros maux de tête là, dans les mois qui vont suivre, quand les gens de Revenu Canada vont devoir démêler tout ça. Les lendemains vont être difficiles.
Très bien. Ben merci beaucoup, Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, toujours en télétravail et vraiment beaucoup de mordant aujourd'hui. Ça nous prendrait un beau rah!
Rah!
Là-haut sur la colline.
Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
Au bout du fil, à Baie-Comeau, il y a Martin Ouellet, député de René Lévesque du Parti québécois. Bonjour.
Bonjour.
Leader parlementaire aussi et porte-parole en matière d'économie, puis c'est important de le dire parce que là, vous trouvez que le gouvernement a annoncé des aides importantes aux particuliers, aux entreprises, mais vous lui demandez d'en faire davantage pour soutenir les PME. Pourquoi?
Parce qu'on veut être prêt pour la relance économique, parce qu'après la crise sanitaire, on va sortir tout le monde de cette crise-là, mais il y aura effectivement un enjeu économique à régler. Et malheureusement, même s'il y a des programmes qui sont annoncés, notre prétention, c'est que les petits entrepreneurs, ceux et celles qui ont 4 à 5 employés dans le service, dans le commerce de détail, sont laissés pour compte. Et eux, peut-être, ne seront pas prêts et disponibles lors de la reprise, parce qu'ils vont tout simplement fermer leur entreprise, mettre la clé dans la porte. Donc, c'est un stress pour eux. Mais c'est aussi un stress pour les travailleurs qui travaillent dans ces entreprises et qui se demandent si, à la sortie de crise, ils auront encore un emploi.
OK. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire exactement?
Pour mettre des liquidités dans le système, il y a plusieurs façons de le faire. Peut-être d'y aller avec un prêt direct aux petites entreprises d'un montant minimal de 10 000 $ Mais présentement, il y a des entreprises qui ont des liquidités. Pourquoi ne pas laisser les liquidités à l'intérieur en permettant aux entreprises, notamment, de ne pas rembourser cette TVQ? Vous savez, quand vous allez faire des achats, dans les commerces, on prélève la TVQ et la TPS, et ça, le commerçant doit le remettre à chaque 3 mois, dans certains cas, ou annuellement. Donc, il y aura des remises qui devront être faites pour le premier trimestre, donc au 30 mars. Donc, ces entreprises-là ont ces liquidités. Alors, si on ne les remet pas tout de suite, on reporte ça au gouvernement dans 6 mois, mais ça pourrait permettre à certains entrepreneurs de passer la crise et d'éviter d'étirer leur marge de crédit, qui, dans certains cas, est déjà à la limite. Deuxième chose, Hydro-Québec, pour ceux et celles qui ont des commerces et qui doivent payer leur électricité, on demande à Hydro-Québec de suspendre le paiement de cette électricité-là. On pourrait le payer ultérieurement et surtout de ne pas charger de frais d'intérêt si les gens paient en retard.
OK, Hydro-Québec, mais Hydro-Québec déjà a dit qu'elle ne suspendrait pas les paiements, c'est-à-dire qu'elle ne donnerait pas de temps pour payer.
C'est ça. Et on comprend que pour une entreprise qui a son loyer à payer, c'est l'électricité, ce sont des coûts fixes. Et pour l'instant, il n'y a aucune vente qui rentre. Donc, pour les commerçants, ceux et celles qui ont déjà des loyers à payer, j'espère que certains d'entre eux auront des ententes avec leur propriétaire pour reporter les loyers. On l'a vu avec Ivanhoé Cambridge, cette espèce de temps d'arrêt qu'ils ont fait, mais dans d'autres centres commerciaux, dans d'autres commerces sur la rue principale, je ne suis pas convaincu que les propriétaires, présentement, donnent cette opportunité-là. Donc, on n'a pas de vente. Dans le commerce au détail, dans le commerce de services, souvent, les deux premières dépenses sont les loyers et les salaires. Donc, on s'entend que les salaires, on ne les a pas assumés, mais les loyers, c'est quand même assez dispendieux. Donc, si on veut être capable de donner de la liquidité, il faut trouver des moyens. Et le fait de ne pas payer son compte d'électricité tout de suite et de le reporter, bien, c'est une façon rapide de laisser des liquidités dans l'entreprise pour qu'elle puisse faire face à ses obligations présentement.
Est-ce que c'est pas difficile d'être dans l'opposition en période de crise comme ça, parce que tout le monde veut qu'on se serre les coudes, veut pas qu'on critique trop le gouvernement? Il y a des journalistes qui l'ont appris à leurs dépens, là, qui se sont fait varloper parce qu'ils avaient posé des questions un peu trop insistantes. Est-ce que c'est pas difficile, donc, d'être dans l'opposition à une période comme celle-là?
Est-ce que c'est difficile? Non. Est-ce que c'est particulier? Oui. Et je pense que, et c'est probablement le cas de tous les collègues, on travaille d'arrache-pied pour aider notre population dans toutes nos circonscriptions. Donc, est-ce qu'il y a de la politique à faire présentement avec la situation? Moi, je pense que non. Est-ce qu'il y aura de la politique à faire ultérieurement lorsqu'on en fera un bilan des actions, celles qui auront porté, celles qui auront moins bien porté, le temps de réaction? Peut-être à ce moment-là, il sera le temps d'évaluer la qualité et l'intensité du travail du gouvernement. Mais évidemment, je pense que présentement, en tout cas pour moi et pour notre formation politique, c'est pas le moment. On est en mode proposition. On discute avec le ministre de l'Économie pour mettre de l'avant un peu ce qu'on veut faire. On veut que ça fonctionne, on veut sauver le plus de monde possible, on veut laisser personne passer à travers les mailles du filet. Par la suite, lors du moment du bilan, peut-être effectivement les partis d'opposition pourront être plus critiques sur l'action gouvernementale, mais encore une fois, c'est le travail présentement des journalistes de poser les questions difficiles, et je les salue, c'est important. Les gens veulent avoir des réponses, toute une question de confiance et de transparence, et si ça s'effrite, bien, c'est tout le tissu collectif, c'est tout le tissu social qui risque d'être affecté. Alors, c'est pour ça que les journalistes, même si c'est tough, doivent poser des questions, parce que ça sert effectivement de baromètre à la confiance que le public a dans les décisions du gouvernement.
Ah oui. Est-ce que le gouvernement gère bien la crise, selon vous, même si le bilan, ça sera pour après, mais jusqu'à maintenant, est-ce que vous trouvez qu'il fait bien ça?
Oui, moi, je suis tenté de dire que je suis content de voir qu'on a pris des actions difficiles, mais essentielles. Le shutdown économique, ce n'était pas une décision facile. Il fallait le faire. De prendre des mesures, puis d'y aller de façon volontaire, après ça, de façon obligatoire, où soit on y va par gradation. Alors ça, je souligne ça. Quand je regarde ailleurs dans le monde, les pays qui n'ont rien fait, ou les territoires qui n'ont rien fait, puis après ça, ils décident de faire de grandes choses rapidement, c'est drastique. Donc, je pense que dans les mesures prises par le gouvernement, toujours selon la science et la direction de la santé publique, je pense qu'on est à la bonne place. Mais évidemment, tout est dans la capacité du gouvernement de livrer ce qu'il a promis. Présentement, le gouvernement du Québec, ça semble être efficace, mais du côté du fédéral, on annonce l'argent, c'est pas encore disponible, et on espère qu'il n'y aura pas de cafouillage. Mais on dirait que j'ai pas la même tolérance dans la compétence entre le gouvernement du Québec et celle du Canada, et je t'en ai dit que le Québec est devant celle du Canada présentement.
Comment ça se passe sur la Côte-Nord? Là, vous êtes à Baie-Comeau, chez vous. Oui. Est-ce qu'il y a des particularités? On parle beaucoup des grands centres, on parle beaucoup de Montréal, de Québec, mais comment ça se passe en région?
Bien, évidemment, comme la Côte-Nord, on est un territoire immensément long, mais peu densifié. Donc, évidemment, les risques de contagion, à notre avis, sont moins grands parce qu'on n'a pas de grands rassemblements, on n'a pas de transport en commun. On dirait que tout ce qu'on demande pour être mieux organiser ou mieux soutenir notre développement économique aujourd'hui nous sert parce qu'on n'est pas en période où ce qu'on peut effectivement beaucoup se contaminer à cause des distances.
Ouais.
Cela étant dit, on a des réalités, par exemple. On a des travailleurs qui arrivent de l'extérieur, qui viennent travailler dans les usines.
Ah oui.
Beaucoup de déplacements. Donc ça représente un certain enjeu. Je vais donner l'exemple. La municipalité de Franklin devrait réouvrir sous peu son usine de crustacés pour la transformation du crabe et des produits de la mer. C'est des gens qui viennent de Terre-Neuve, du Labrador. On avait aussi anciennement des travailleurs qui étaient issus de l'immigration. Donc, c'est tout un casse-tête pour respecter à géométrie variable ce que les régions mettent en place. Donc, il n'y a plus personne qui passe du Labrador et de Terre-Neuve. Donc, un enjeu là. Et est-ce qu'on sera capable encore aujourd'hui d'accueillir des travailleurs étrangers pour venir travailler dans l'usine? Permettez-moi d'en douter. Et tous ceux et celles qui viennent d'ailleurs, qui viennent donner un coup de main, ces personnes-là, ils ne restent pas à l'hôtel. Baie-Trinité est une petite municipalité d'environ 400 âmes. Ouais. Donc, les gens restent dans des maisons, restent dans des loyers qui sont sous-loués par des propriétaires terrestres. Donc, ça représente tout un enjeu. Alors, je comprends la municipalité de Franklin d'être plus en ébullition présentement, considérant les risques potentiels suite à l'arrivée de gens issus de l'extérieur. Donc, c'est un peu la situation qui peut... Je ne peux pas dire qu'il est similaire à Montréal et à Québec, mais qui a une dimension plus humaine, peut représenter, je vous dirais, une caractéristique similaire, à savoir qu'on a des gens qui sont en déplacement et qui peuvent effectivement être des agents de contagion rapidement.
Est-ce qu'il y a beaucoup de cas?
On en a trois. Ouais, hier, on en avait trois sur l'ensemble du territoire de la Côte-Nord. C'est vaste. Donc, est-ce que c'est à l'est du côté d'Havre-Saint-Pierre ou plus à l'ouest du côté de Tadoussac ou plus au nord du côté de Fermont? Évidemment, le territoire est grand, mais notre santé publique suit ça très près. Comme tout le monde, on attend les conférences de presse du premier ministre pour savoir quel est l'état de situation à 13h dans notre région.
Donc, c'est l'éloignement physique naturel en région, finalement, ça aide, ça?
Bien, cette fois-ci, là, j'ai revendiqué à plusieurs égards un pont sur la rivière Saguenay pour qu'on se connecte à la population. Mais présentement, je vous dirais que c'est pas notre priorité, considérant que bon, aussi les déplacements entre régions sont limités. Il faut que ce soit des déplacements essentiels. Donc, présentement, je vous dirais, l'enclavement de la Côte-Nord peut un peu nous servir. Mais il ne faut pas être dupe non plus. On est à risque comme toutes les régions du Québec. Et il faut assurément appliquer les consignes telles qu'ils sont demandées par le gouvernement.
Puis les commerces, comme vous l'avez dit, ils sont fermés. C'est terrible. La vie est quand même suspendue là aussi.
En bonne partie. Cependant, Antoine, comme nous sommes des régions ressources, plusieurs de nos industries sont couvertes par les entreprises dites prioritaires de crise. Et donc, ils ont adopté pour la plupart des mesures, oui, du télétravail, mais chez nous, chez Alcoa, exemple, ou mon usine de siège à Thierry des Outardes, ça fonctionne encore. Et donc, ça permet de lâcher un peu de pression économique, je vous dirais, dans la région, pas que les gens dépensent un peu plus parce qu'on est tous un peu confinés, mais c'est sûr que ça fait moins de gens sur le chômage ou moins de gens en situation financière précaire. Et donc, s'il y a relance ou une réactivation économique tranquille, bien évidemment, les gens en ayant des moyens vont pouvoir rapidement, en tout cas on l'espère, être capables de consommer dans nos économies locales.
Très bien. Ben merci beaucoup, Martin Ouellet.
Merci beaucoup, Antoine.
Je le répète, Martin Ouellet est député de René Lévesque, leader parlementaire du Parti québécois et porte-parole en matière d'économie. Vous êtes à l'écoute de Là-haut sur la colline.
Antoine Robitaille. Le philosophe de la politique. Là-haut sur la colline.
Cube Radio.
Alors, c'est vendredi et c'est le dialogue des barbus. Bonjour, Thomas Mulcair.
Salut, Antoine Robitaille.
Il est au fond de la campagne, quoi. Hein, là.
Eh oui.
Terré dans un chalet.
Exactement. Il y a pire.
Oui, il y a pire. Dans ta chronique du Sun l'autre jour, tu te demandais si le fédéral allait réussir à avoir joué un rôle positif dans toute cette crise-là. Est-ce que ce qui a été annoncé ce matin par Justin Trudeau, c'est un rôle positif selon toi?
Ah oui, ils sont en train d'imiter le modèle que j'appellerais le modèle danois, parce qu'en Danemark, ils avaient résolu, ils ont mis énormément d'argent de côté. Ils ont dit, plutôt que de sortir des prestations d'assurance-emploi, on va garder le lien d'emploi, subventionner les entreprises pour garder ce lien d'emploi, et voilà ce qui est fait ici, notamment pour les PME. C'est un bon coup, parce que ça va alléger le système d'assurance-emploi qui va pouvoir traiter des cas en dehors de cette nouvelle façon de faire. Plus tôt cette semaine, M. Trudeau avait annoncé une aide majeure, ce qu'ils sont en train d'appeler leur prestation canadienne d'urgence. Et ça, c'était beaucoup mieux que ce qui avait été annoncé la semaine dernière. La semaine dernière, ça ressemblait à ce genre de parcours slalom géant que la fonction publique fédérale adore. Et j'ai souri quand j'ai lu ton article dans le journal de Montréal, parce que tous les deux, on avait fait référence au fameux système de paie Phoenix.
Oui.
Ce catastrophe à quatre pattes fabriquée par le gouvernement fédéral et son administration publique, qui est rendu dans son troisième parlement et ils sont toujours incapables de sortir un chèque de paie. Alors, imaginez, si les gens qui ne sont pas capables de sortir un chèque de paie devaient dessiner tous les contours d'un nouveau programme qui allait rendre un chèque dans la poche des gens rapidement, ça aurait été une catastrophe totale. Donc, je trouve que c'est de la lucidité de la part de M. Trudeau et ses plus proches conseillers de dire, écoutez, là, on va prendre le mieux de ce qui existe. On appelle ça parfois en anglais « best practices », hein, les meilleures pratiques. On va regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas, et on va piquer, on va copier sans hésitation. Alors, c'est ce qu'ils sont en train de faire, puis c'est un bon coup. Je pense que ça va aider énormément de travailleurs à travers le pays.
Dans ton article aussi, tu disais que le crédit pour la TPS aurait dû être une espèce de véhicule pour aider les moins nantis. Oui. Tu le crois toujours? Est-ce qu'ils l'ont fait? Ça va
non. Ben, en fait, ils l'annoncent, mais encore là, c'est quelque chose qui va prendre longtemps. Alors, il y avait des choses très simples à faire. Ce crédit, donc, en ce moment, les familles les moins bien nanties, mais qui travaillent, et ils reçoivent deux fois par année un chèque crédit pour la taxe sur les produits et services du fédéral. Donc, ça ressemble à quoi? Ben, quand cette taxe-là a été amenée par le gouvernement Mulroney dans le temps, les gens disaient, oui, mais les gens moins fortunés, ça va alourdir leurs dépenses à tous les égards. Ils ont dit, très bien, on va faire un chèque avec une sorte de ristourne à ces familles-là. Et ils le font. Le gouvernement du Canada le fait fidèlement depuis une génération.
C'est quatre fois par année, hein?
Oui, c'est ça. Oui, peu importe, je croyais que c'était deux, mais peu importe. Oui. Il fallait donc, ils ont déjà la banque de données, Antoine.
C'est ça.
Ils n'avaient qu'à appuyer « envoi ». Hein? On appuie sur l'ordinateur « envoi ».
Oui.
On envoie le chèque et ça
recule. Le canal était déjà là.
Ben oui, on n'a pas besoin de réinventer. Pour les fameuses cartes de crédit, là, M. Trudeau dit qu'il veut bien discuter avec les banques, mais moi, je suis désolé, là, si vous allez voir les banques pour discuter avec eux, il ne se produira pas grand-chose.
Non.
Il va falloir dire aux banques, parce que c'est le fédéral qui est responsable des banques, dire aux banques, ça suffit, les 29 % pour les cartes de crédit, et ainsi de suite, et les premières 2 000 $, donc, qui correspond au premier chèque, mais qui va prendre du temps à venir en vertu de cette fameuse prestation. C'est-à-dire les 2 000 premiers dollars sur votre carte de crédit pour les 4 prochains mois, pas d'intérêt, pas de frais possibles. Ça va alléger les choses pour la famille moyenne qui doit vivre de ses cartes de crédit en ce moment. Un autre bon coup qui a été fait en Colombie-Britannique cette fois-ci, puis si on imite les meilleures pratiques, il faudrait regarder ça. Ils ont carrément interdit toute forme d'éviction des locataires. Donc, ici au Québec, on est en train d'atteindre par la porte en arrière à peu près ce résultat-là, parce que la régie du logement ne fonctionne pas comme tous les autres tribunaux ne fonctionnent pas en ce moment. Donc, ce serait très difficile pour un locateur d'expulser, d'évincer un de ses locataires. Mais ils ont aussi mis 500 $ dans les poches de chaque locataire de la province de Colombie-Britannique, la troisième province après l'Ontario et le Québec en termes de population. Donc, c'est un énorme programme, c'est des milliards de dollars, mais c'est pour venir en aide aux moins nantis. Et c'est un très bon coup qu'il faudrait regarder attentivement. Et ça, c'est de la responsabilité des provinces.
Oui, mais il faut se rassurer, hein, parce qu'il n'y aura pas d'invasion américaine à Mississauga.
Oui, on est chanceux. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu le fameux film South Park, là, cette bande dessinée américaine avec des jeunes qui sont toujours habillés hein, peu avec d'énormes manteaux d'hiver pour des raisons incompréhensibles.
Oui,
mais
oui.
La grosse blague dans le film, quand ils en ont fait un, c'était « Blame it on Canada », que l'on blâme tout sur le Canada et les Américains devraient envahir le Canada. Alors, le plus sérieusement du monde, et ça, c'est pas une blague, là, la Maison-Blanche, confirmée par Trump, la Maison-Blanche songeait à militariser la frontière canado-américaine. Pourquoi? Parce qu'eux, ils disaient qu'il y avait toutes sortes de personnes qui voulaient passer du côté des États-Unis. Alors, voici les chiffres. Depuis les dernières années, les 3-4 dernières années qu'on a les chiffres, plus de 20 000 personnes par année passent des États-Unis irrégulièrement vers le Canada pour trouver refuge. Et combien de personnes passent du Canada aux États-Unis? 500 ou 600.
Ah, oui.
Alors, de 20 000 vers chez nous à quelques centaines vers chez eux, et ils allaient déployer des troupes sur la frontière, c'était hallucinant. Bravo à notre ministre Chrystia Freeland, qui est vice-première ministre et qui a appris à apprivoiser un peu la folie de l'administration Trump lorsqu'elle a renégocié à succès l'entente à l'ENA. Et elle, elle a frappé à toutes les portes, elle a dit c'est délirant votre truc, ça n'a aucun sens de militariser notre frontière. Puis finalement, aujourd'hui, les Américains ont annoncé qu'il n'y aura pas d'invasion, du moins pas ce week-end.
Un autre groupe qui a eu l'air un peu, stupide, disons-le, c'est Peter McKay. Qui est évidemment un candidat à la course conservatrice, là, à la direction du Parti conservateur.
Oui, et il est en train de se faire rondement tabasser par les plus hautes instances du Parti conservateur. Et ça va très, très mal. Quand vous commencez une guerre contre votre propre parti en plein milieu d'une course à la chefferie, c'est jamais bon. Et alors, McKay faisait pression depuis une semaine, 10 jours, disant, ben écoutez, avec toute cette histoire de coronavirus et tout ça, on devrait faire le vote tout de suite et arrêter le processus de vente des cartes. Il n'y aura pas eu de débat des candidats et tout ça. Tout le monde a dit, wow, les moteurs. J'ai parlé cette semaine avec quelqu'un impliqué à l'intérieur du parti, plus haut niveau, avec cette course-là. Puis ce qu'on m'a expliqué était intriguant. On m'a dit, oui, on veut désespérément retrouver un chef permanent, mais on ne peut absolument pas changer la date. Et ça, c'était juste pour le fixer. Mais hier soir, ils ont résolu que c'était impossible et injuste parce qu'on ne peut pas vendre des cartes de membres, on ne peut pas mettre des thèmes sur les enveloppes, on ne peut pas avoir plein de bénévoles en train de gérer cette campagne-là. Les gens n'ont pas le droit de travailler ensemble. Alors, notamment au Québec et en Ontario. Donc, ils ont dû dire, on se reparle au mois de mai pour fixer une nouvelle date. Et là, l'ami McKay a tout simplement capoté en disant « ça n'a pas de bon sens, ça nous prend le vote, il ne faut pas le reporter ». Et les articles dans McLean, notamment un McDougall qui était un ancien premier conseiller en communication de Stephen Harper, a dit « mais il vit sur quelle planète celui-là de commencer à tester et à se fâcher puisqu'il n'a pas ce qu'il veut tout de suite, une course en plein milieu d'une pandémie, ça n'a aucun bon sens ». Et je vais vous dire, Antoine, en politique, c'est le genre de bourde qui nous suit longtemps.
Penses-tu que ça va suivre Dominique Anglade aussi au Parti libéral qui voulait aussi faire une course simplement virtuelle puis voter comme prévu le 31 mai?
Oui, mais ça, c'était au début, avant que ça soit comme ça. Là, on parle d'aujourd'hui, le 27 mars. Alors que Mme Anglade ait pu dire ça au début, je ne pense pas qu'elle l'aurait dit aujourd'hui. McKay est en train de dire ça en plein milieu de la crise, ça n'a aucun bon sens et ça démontre, à mon sens, que lui croit que le soleil tourne autour le soleil tourne autour de la Terre et pas l'inverse, et c'est lui la Terre. Il pense que le soleil se lève sur lui le matin. Moi, je pense que M. McKay va avoir énormément de difficultés à l'avenir. Il va avoir du mal à expliquer ça, ça va le suivre longtemps. Et moi, j'étais persuadé c'était comme une lettre à la poste. Il avait juste à être là et il gagnait. Mm-hmm. Moi, je ne suis plus aussi sûr aujourd'hui. C'est vraiment irresponsable comme attitude et ça témoigne beaucoup de qui il est. Je ne pense pas que ça va l'aider beaucoup dans cette course.
Non, c'est mon impression aussi. Ben, merci beaucoup, Thomas Mulcair.
Allez, Antoine.
Bonne chance dans le chalet là-bas. Puis on se reparle la semaine prochaine, je l'espère.
Sans faute. Moi aussi, j'espère. Bye-bye.
Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit.
Et maintenant, autrement écouté.